une série de psaumes, des trois psaumes. C'est une trilogie, ces trois psaumes qui sont ensemble. Puis on peut les regarder ensemble, on va les regarder un par un, mais il y a trois sujets dans ces psaumes-là. Puis on va les voir dans le psaume 28. Et on sait que dans le psaume 28, c'est la prière. Dans le psaume 29, c'est l'adoration. Puis dans le psaume 30, c'est la louange. Dans le psaume 28, au verset 1, il dit: De David, l'Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Et l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Le psaume 29, psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Le psaume 30, psaume cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, sauve-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole. Donc, comme j'ai dit ici, le psaume 28, ben, ça nous parle de prière, de la prière. On a vu ça, je crie à toi. Il invoque la voix de ses supplications. Puis la prière, c'est d'être occupé de nos besoins. Dans le psaume 29, c'est l'adoration. Quand il nous dit ici, adorer l'Éternel avec des ornements sacrés. Donc, c'est l'adoration, c'est d'être occupé de sa personne à lui. La prière, occupée de nos besoins. L'adoration, occupée de sa personne. Puis le psaume 30, lui, c'est la louange. Puis la louange, c'est le débordement du cœur dans l'appréciation. C'est ça qui est la louange. Donc, on commençait avec le premier, le psaume 28. Donc, comme on a dit, la prière, c'est d'exposer nos requêtes devant le Seigneur. Puis le Seigneur le demande. Il veut qu'on prie. C'est même un commandement. Le Seigneur Jésus nous a donné dans Matthieu 7, au verset 7, il dit: Demandez et l'on vous donnera. car quiconque demande reçoit. Donc, il nous fait un commandement, puis avec une promesse aussi de demander. Puis Dieu veut qu'on demande. Vous savez, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de prier, ben, sont pas dépendants. La prière montre notre dépendance. Puis quand on se pense suffisant en nous-mêmes, on ne viendra pas. Vous savez, comme la réunion de prière à l'Assemblée, c'est quelque chose de très important. Une Assemblée qui ne prie pas, ben, comment qu'elle peut fonctionner sans la prière? On a besoin. On voit dans le livre des Actes que constamment, ils revenaient ensemble pour prier parce qu'ils faisaient une œuvre. Puis pour faire cette œuvre-là, ils avaient besoin de la puissance de Dieu. Puis on les voit, hein, quand il arrivait une situation, ils se retrouvaient dans la prière. Puis il dit même que quand ils avaient prié, le lieu où ils avaient prié, il avait tremblé. C'est que c'était important pour eux, là, de prier. Mais c'est vraiment reconnaître que c'est lui seul qui peut répondre à nos prières. Parce qu'au verset 1, voyez-vous, il dit, c'est à toi que je crie. Puis au verset 2 encore, il dit, écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Donc c'est important, lui, il y avait juste un endroit qui pouvait prier. Puis nous autres aussi, on a seulement un endroit, seulement un à qui on peut prier, c'est à notre Père, puis par le Seigneur Jésus-Christ. Dans le psaume 121, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Puis après, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Des fois, on pense que quand il dit sur les montagnes, c'était des lieux d'idolâtrie. C'était des lieux où on avait des hauts, on appelle des hauts lieux. Puis c'était vers des idoles. Puis les gens du monde, les autres, ils priaient n'importe qui, n'importe quoi. Mais nous autres, quand il dit, lui, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? C'est comme si la réponse à ça, c'est ça vient pas des montagnes. Puis là, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous savez, les gens adressent leurs prières à bien d'autres que le Seigneur. Puis on voit ça même aujourd'hui, c'est rendu populaire, même des fois. Et quand il arrive des catastrophes ou des choses de même, ils vont dire, même dans les nouvelles, les gens, les dirigeants vont dire, on prie pour vous, vous êtes dans nos prières, mais à qui prient-ils? S'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, s'ils n'ont pas accès au Père par le Seigneur Jésus, comment est-ce qu'ils peuvent prier? Puis on ne se joint pas à ces prières-là. Nous autres, on ne prie pas à n'importe qui, on prie le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis par l'Esprit, ça c'est la prière qu'on voit dans la parole de Dieu. Puis c'est là que nous autres, on ne se tourne pas vers n'importe qui, puis n'importe où. On se tourne vraiment vers le Seigneur. Dans l'Exode, au chapitre 20 et verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est que c'est vraiment reconnaître, puis donner la gloire au Seigneur. Parce qu'eux, ils prient leurs idoles. Puis, quand les choses, ça donne gloire à leurs idoles, mais nous, on prie au Seigneur, celui qui est venu pour nous, qui s'est fait connaître à nous, puis nous a donné son Fils. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il y avait mon beau-frère qui était avec moi, puis il me disait à un moment donné, il dit, ah oui, toi, tu es vraiment chanceux quand on travaillait sur la maison. Puis j'ai dit, ben non, moi, je ne suis pas chanceux du tout. J'ai dit, je suis béni. Ah oui, tu es béni des dieux. J'ai dit, non, 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 juste un. Il y a juste un qui, on a assez d'un, il est suffisant. Puis on ne va pas vers les autres dieux. Mais le Seigneur Jésus nous a exhortés à demander au Père en son nom. On a accès à cause de lui. À cause de ce qu'il est. Vous savez, c'est lui qui nous représente devant le Père. Puis, quand on demande au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ben, c'est à cause de lui que le Père, il veut nous donner les choses qu'il nous donne. Il dit dans Jean 15, au verset 16, il dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Puis c'est sûr que le Seigneur Jésus, il a accès, il est Dieu lui-même, il est un avec le Père. Puis quand on pense à sa sainteté, à comment il est le délice du Père, eh bien, ça nous donne tout un nom à invoquer auprès du Père, là. Vous savez, des fois, on faisait ça quand on cherchait un job. Puis si on connaissait quelqu'un qui avait un accès avec le patron, bien, on disait, ben là, c'est lui qui nous recommande, là. Fait que ça nous donnait une bonne entrée pour avoir la job. mais ou avoir des bénéfices de quelqu'un si on vient au nom de quelqu'un qui est bien vu, comme Paul disait à Philémon, ben, il a envoyé Onésime, puis il a dit reçois-le comme moi-même. Fait que tu sais que Philémon, il aimait beaucoup Paul, puis il se devait à Paul. Donc là, Onésime, il arrivait à Philémon comme si c'était Paul qui arrivait à lui. Puis d'autres, c'est comme ça aussi. Le Seigneur nous donne un accès au Père à cause de ce que lui, à cause de sa relation à lui avec le Père. Donc, il dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais vous savez, sans la prière, là, c'est impossible de vivre la vie chrétienne. C'est vraiment, le Seigneur nous a donné cette opportunité-là de venir à lui pour qu'on puisse vraiment vivre dans la victoire, comme on a vu dans Éphésiens, cette victoire-là, mais on l'a par la prière. Puis c'est tout un privilège merveilleux, là. Il dit au verset 1, il dit, mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Il voyait vraiment que si le Seigneur ne répondait pas à ses prières, bien, il aurait été comme ceux qui descendent dans la fosse. Il aurait été comme les inconvertis. Puis nous autres aussi, si on n'avait pas cet accès-là au Père, on n'aurait pas la force, puis on serait bien vite comme ceux qui descendent dans la fosse. Ici, il dit, si tu réponds pas, si tu t'éloignes sans me répondre. Mais qu'est-ce qu'il en est si moi je ne m'approche pas pour demander? C'est terrible. Si je ne m'approche pas pour demander, bien, comment ça se fait que tu sais, c'est vraiment une négligence, puis c'est de penser que je peux vivre sur ma propre force. Parce que le Seigneur Jésus nous a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Paul lui avait appris, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc c'est ça, c'est vraiment la prière, c'est l'accès à toute la puissance de Dieu pour que lui puisse, pour que notre vie soit vécue pour lui. Dans Éphésiens, on l'a vu, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on peut vivre notre vie avec toute la puissance de Dieu qui est disponible pour nous ici, là. Comme on disait tantôt, on parlait dans le livre des Actes, les chrétiens, les disciples, ils revenaient toujours, c'était important, eux, c'était comme l'air qu'ils respiraient de vraiment venir ensemble. C'est sûr qu'on peut prier individuellement pour nos besoins, mais de venir ensemble pour prier, c'est quelque chose de très important. Dans Actes 4, 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous, la puissance du Saint-Esprit venait sur eux pour accomplir la tâche. Puis, dans le livre des Actes, ils ont accompli la grande commission dans leur temps. Parce qu'ils ont rejoint le monde connu avec l'Évangile dans leur temps. Puis chaque génération a le devoir de rejoindre le monde avec le message de l'Évangile. Parce que, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est important, on a une grande tâche à accomplir, puis comment qu'on pourrait penser d'accomplir cette tâche-là sans cette ressource qui est merveilleuse, qui est la prière. Donc, dans la prière, on trouve aussi la joie, on trouve la puissance pour agir, mais on trouve aussi la joie. Dans le verset 7, regarde, il dit, L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Puis regardez le résultat. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je te loue. Je le loue par mes chants. Mais aussi, on voit que dans la prière, on trouve la paix puis l'absence d'inquiétude. C'est important parce qu'on est porté à s'inquiéter. C'est sûr que quand on voit des situations qui sont comme des montagnes pour nous autres, qui sont difficiles à surmonter. Des fois, on peut venir découragé, on peut venir là, accablé, mais dans la prière, on trouve la paix, parce que la paix, c'est dans l'absence d'inquiétude. Comme il dit dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc, il y a un combat dans la prière pour réussir à trouver cette paix-là. Et il dit, et la paix de Dieu. qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on voit, puis comme on a dit tantôt, on trouve aussi la joie. Il y a de la joie dans la prière. Dans Jean 16, 24, il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, il nous donne un commandement ici de demander et de, qu'on va, il nous fait la promesse qu'on va recevoir, puis cela, ben, pour que notre joie soit parfaite. C'est sûr que quand on est dans des situations difficiles, des choses qui semblent insurmontables, puis qu'on demande au Seigneur, puis qu'il nous donne la délivrance, qu'il nous donne la victoire, qui nous aide à surmonter la situation, ben, on est dans la joie. Encore une fois, ça nous prouve que Dieu est fidèle, puis qu'il peut tout. C'est vraiment important de comprendre ça, que lui, il peut tout, puis on est en paix. Il dit, on est comme un enfant sevré auprès de sa mère quand on se confie dans le Seigneur. Mais c'est la prière, elle nous donne la paix, elle nous donne la joie. Mais la prière exige aussi la sanctification. Dans les versets 3 à 5, il dit, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Donc, ne rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent. Donc, ici, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que on a besoin d'être sanctifié, on a besoin d'être séparé du monde, d'être un avec le Seigneur Jésus, d'être s'approcher de Dieu. Puis quand on s'approche de Dieu, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre péché devient évident. Puis quand on s'approche de lui, ben, dis-nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est l'intimité ici. Pour avoir l'intimité avec le Seigneur, ça prend la sanctification. Puis il dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, de s'approcher de lui, de faire un avec lui. Puis, dans Jean 4, au verset 8 à 10, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est le contraire, hein, quand on voyait les chefs religieux du temps du Seigneur Jésus-Christ, ils étaient remplis d'orgueil, hein. Ils pensaient toujours à comment eux, ils pensaient à leur propre justice. Mais ils venaient dans la présence du Seigneur, mais ils étaient éloignés du Seigneur. Ils ne comprenaient pas. Mais ceux qui s'approchaient du Seigneur en reconnaissant leur péché, ben, le Seigneur, il les élevait, il les nettoyait. Puis on a besoin, nous autres aussi, d'être sanctifiés, de passer du temps dans la présence du Seigneur, puis d'être sanctifiés. Puis quand on passe du temps avec le Seigneur, c'est que nos désirs deviennent ses désirs à lui, ou ses désirs deviennent nos désirs. Puis c'est ça qui est important, là. La prière, ce n'est pas un moyen de satisfaire nos convoitises. Parce que dans le monde, c'est comme ça. Tu as besoin de quelque chose, tu pries, puis tu vas l'avoir. La prière, ce n'est pas comme ça. C'est sûr que le Seigneur il nous dit quand on a dans nos besoins, mais dans nos besoins, quand on est en intimité avec lui, ben, nos besoins, c'est quoi? Ben, c'est de le glorifier. C'est de faire son œuvre. C'est de lui plaire à lui. Mais la prière, ce n'est pas un moyen de satisfaire notre convoitise. Parce que moi, je décide que je veux avoir quelque chose, puis je pense que je vais demander au Seigneur pour satisfaire ma convoitise. Le Seigneur ne répond pas à des prières comme ça. Puis c'est merci qu'il ne répond pas à des prières comme ça, parce que c'est pas, il ne va pas nous donner des choses qui vont être mauvaises pour nous, il va nous donner des choses qui sont bonnes. Donc, Jacques dit dans Jacques au chapitre 4, encore une fois, au verset 3, il dit, vous demandez. Et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voyez-vous ici, Jacques qui leur dit, là, vous demandez, vous ne recevez pas. Le Seigneur, il dit, demandez, vous recevrez. Mais là, ils demandent, puis ils ne reçoivent pas. Fait qu'on voit que c'est pourquoi la raison pour laquelle ils ne reçoivent pas, c'est parce qu'ils le font dans le but de satisfaire leur passion. Donc, dans la prière, là, on doit avoir comme but premier la gloire de Dieu et son œuvre. Ça se fait quand on est dans l'intimité du Seigneur, quand on est sanctifié, quand on est proche du Seigneur, puis que lui, il agit sur nos âmes, sur nos cœurs, bien, il nous transforme dans nos désirs. Puis, mais quand on est sauvé, déjà là, il y a un travail de sanctification qui s'est fait. Puis il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis, c'est comme nos désirs ont changé. Puis on l'a expérimenté au moment de notre conversion, comment nos désirs ont changé. Puis, c'était vraiment un désir d'être plus près du Seigneur, un désir de lui être obéissant, un désir de victoire dans nos vies. Puis, c'est ça que le Seigneur, il veut pour nous aussi. Donc, le premier but dans la prière, c'est la gloire de Dieu et son œuvre. Dans Luc, au chapitre 11, au verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Voyez-vous, le début de la prière du Seigneur, puis ça, c'est quand on appelle cette prière-là le Notre Père. Mais c'est vraiment un modèle, c'est pas une formule. Parce qu'on sait qu'on dans la religion, on était habitué à des formules, puis des formules, on peut les répéter sans même penser à ce qu'on dit. Mais c'est vraiment ici, c'est pas une formule, parce que même dans les deux évangiles, il est pas, les mots sont pas exactement pareils, mais c'est un modèle de prière. Donc la prière, quand le Seigneur, il avait demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier, mais le Seigneur, il leur a enseigné, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voyez-vous, le début de la prière est vraiment concernant le Seigneur, concernant la gloire du Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Après viennent nos besoins. Fait que c'est sûr que nos besoins, si notre prière a été que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, donc le désir de notre cœur ici, c'est élever le nom du Seigneur, puis que son règne vienne, eh bien, nos besoins vont être quoi? Bien, ça va être de participer à ce que cette prière-là soit exaucée. Dans les versets, si on va dans Luc 11 au verset 6-7, on a vu le verset 2, mais dans Luc 11, les versets 6 à 7, il dit, car, ok, là, je c'est dans les versets 6, 7, c'est dans notre psaume. Dans le verset 2 de Luc 11, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ensuite de ça, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Voyez-vous, dans notre psaume, au verset 6, 7, il dit, Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Donc, nos besoins, c'est ça, là, ici, on voit dans nos besoins, c'est vraiment de voir ça aussi, là, que le Seigneur soit béni, que puis parce qu'il exauce la voix de mes supplications. Donc, quand il va répondre à ma prière, ça va donner une louange au Seigneur, ça va donner, le Seigneur va être béni, puis il va être la force, puis mon bouclier, puis mon cœur va se confier en lui quand on va être secouru. Après ça, comme dans Luc, il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Vous savez, le Seigneur connaît nos besoins. Puis, il va répondre à nos besoins. Il va pourvoir à nos besoins. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour ces choses-là. C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin. Il va nous donner les opportunités pour pourvoir. Puis, des fois, je m'arrête à penser un peu à ceux qui ont été avant nous autres, là. Ils ont eu les inquiétudes. Ils ont eu le temps dur, tout ça, mais ils ont toujours mangé. Ils ont toujours, des fois, peut-être que c'était un peu moins que ce qu'on aurait voulu, mais ils ont survécu, puis ils ont tout vécu. Quelqu'un disait aussi, parce qu'aujourd'hui, ils nous parlent des enfants, hein, qu'ils vont nous dire, un enfant, ça va coûter 100 000 piastres, avoir un enfant. Mais c'est sûr que ça enlève le goût d'avoir des enfants quand ils nous parlent comme ça. Mais il y avait un frère qui disait, ils viennent tous avec... puis, on a nos enfants, puis on les nourrit, puis le Seigneur pourvoit pour nos besoins. C'est pas, on ne fait pas ça d'une façon égoïste, mais c'est vraiment merveilleux. Mais la prière aussi exige la foi. Quand il dit au verset 8, L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son loin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Donc, la prière exige la foi. Si on demande sans croire que le Seigneur peut répondre à nos prières, ben pourquoi prier? Mais j'entendais encore, puis j'ai déjà entendu ça, Georges Muller, quand il a regardé des orphelins, oui, il avait à cœur les orphelins, mais le but premier, c'était de montrer que Dieu répondait à la prière, sans demander aux hommes qu'ils pouvaient demander à Dieu, puis que Dieu allait répondre à la prière. Puis il est parti d'un verset qui était dans le psaume, puis il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Puis avec cette promesse-là de Dieu, lui, c'est ça qu'il a fait, il a ouvert sa bouche. Il a donné l'opportunité à Dieu de manifester sa puissance à travers sa vie pour une cause qui, puis vraiment le but de ça, que ton nom soit sanctifié. C'était pour montrer la puissance de Dieu. Puis c'est ça qui était important de la prière et comme ça. Dans Jacques 1, versets 5 à 7, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, si on veut être des gens de prière, ben, il faut qu'on soit des gens de foi aussi. Des gens qui savent que le Seigneur, il va répondre. Parce que si notre désir s'harmonise avec ses désirs à lui, qu'on veut glorifier son nom, puis qu'on veut faire une œuvre qui va démontrer la réalité de sa présence avec nous, puis de la réalité de son existence, bien, il faut avoir la foi qui va répondre à nos prières. Mais la prière demande aussi la patience, parce que ça, on a besoin de patience, parce que le Seigneur répond à nos prières, mais il ne répond pas nécessairement de la façon que nous on pense ou au moment où nous on pense. Parce que le Seigneur, il se réserve le droit de répondre de la bonne manière. Puis, comme il dit ici au verset 9, il dit, sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Donc, le Seigneur, il faut s'attendre à lui. Il faut attendre que. Des fois, on va prier pour quelque chose, puis on essaie d'y répondre nous-mêmes. Mais si on essaie d'y répondre nous-mêmes, le Seigneur, il répondra pas. Il faut s'attendre à lui. Puis, ça prend la foi pour s'attendre à lui. Vous savez, comme Saül, quand il avait été dit par Samuel d'aller puis d'attendre. Ben lui, il n'a pas été capable d'attendre. Pourquoi qu'il n'a pas été capable d'attendre? Il attendait que Samuel vienne pour offrir, faire l'offrande. Mais là, il dit, quand il a vu que l'ennemi s'en venait, puis le peuple se dispersait, ben, il n'a pas eu la foi pour s'attendre à Dieu. Puis il a offert lui-même le sacrifice. Puis en fin de compte, il a perdu la royauté à cause de ça. Parce qu'il ne savait pas à s'attendre du Seigneur. Mais nous, il faut savoir s'attendre. Quand on a prié pour quelque chose, peut-être qu'on trouve que ça prend du temps. Mais ça va toujours arriver au bon moment. Puis le Seigneur aussi, il veut mettre notre foi à l'épreuve. Est-ce qu'on va être capable de s'attendre à lui? Puis vous savez, s'attendre à lui, des fois, là, ça nous amène à l'extrémité de nous-mêmes. Puis c'est bon, ça. De pas prendre les choses en main. De laisser ça dans les mains du Seigneur, puis s'attendre à ce que lui réponde. Puis lui, quand il répond, ça va toujours être jamais trop tard. Souvent à la dernière minute, jamais trop tard. Puis c'est ça qui va, ça va nous encourager, ça nous montre la réalité qu'il est vraiment là, puis qui va prendre soin de nous. Puis, mais aussi, ça va glorifier le Seigneur. Parce que c'est dans les moments-là qu'on voit vraiment la réalité du Seigneur. Quand on arrive à l'extrémité, puis que le Seigneur est fidèle, ça c'est vraiment merveilleux. Donc, il faut attendre le temps de Dieu. Il faut accepter sa façon à lui, de quelle façon il va répondre à notre prière, mais il faut accepter aussi son temps. Là. Dans Jacques 5, versets 7 à 8, puis versets 10 à 11, il dit, Soyez donc patients, frères. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, il y a un travail qui se fait dans l'obscurité, qu'on n'est pas nécessairement toujours conscient. Vous savez, moi, je plantais une graine, puis là, je la déterrais pour voir si ça poussait. Mais là, faut qu'attendre qu'elle sorte. Si tu la déterres, ça marche pas, là. Ceux qui sont, comme il dit ici, là, le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre. Il met la graine en terre, puis il la laisse faire. Puis il faut qu'elle meure, cette graine-là. Puis il faut qu'il y ait un travail qui se fasse. Ça prend de l'humidité, ça prend de la lumière. Puis ça se fait à notre insu, puis tout d'un coup, oups, on la voit sortir de terre. Mais elle ne sort pas tout de suite, là. Il y a un temps pour ça. Puis c'est la même chose. C'est pour ça que Jacques utilise cette illustration-là pour nous dire que le Seigneur, il fait son travail, mais on ne le voit pas. Mais il fait pareil. Puis la foi se confie là-dedans, que le Seigneur fait son travail. Et puis nous autres, on pense, mais là, il n'y a rien qui se passe. Puis quand tant que la graine, avant qu'elle sorte de la terre, on pense qu'il n'y a rien qui se passe, mais à notre insu, il se passe quelque chose. La graine est en train de germer, est en train de se faire des racines, puis à un moment donné, la tige sort. C'est pour ça que Jacques utilise cette illustration-là pour nous dire, nous autres, il faut être patient aussi. Il faut s'attendre au Seigneur. Il faut rester à se fier en lui. Puis il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ben, quand on regarde l'histoire de Job, il y a un bout, là, ça ne regardait pas bien. Là. Sa femme même, il a tout perdu, ses enfants, puis sa femme, qu'elle lui dit « Maudit Dieu », puis meurt, ses amis qui viennent pour le consoler, puis qui l'accusent, c'était pas trop encourageant, mais tout ce temps-là, que Job était dans cette situation-là, il se faisait un travail. Parce qu'à la fin, Job a pu dire mes yeux, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Fait que c'est pendant tout ce temps-là d'épreuve que le travail se faisait. Puis Job, même, il désirait la mort à un moment donné. Il voulait plus, là, il voyait pas le travail qui s'est fait, mais par après, il pouvait voir que pendant qu'il était dans ces souffrances-là, le travail du Seigneur se faisait en lui. Puis s'est fait un beau travail qui était vraiment merveilleux pour lui, là. Puis, comme on chante des fois, je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves. Elles purifient ma foi et me façonnent à toi. Donc, c'est à travers toutes ces circonstances-là que le Seigneur fait un travail. Puis, la foi, avec la prière, bien, Satan en repos devant le Seigneur. Je suis comme un enfant sevré auprès de sa mère. Fait que la foi, puis la prière nous donne, la prière de la foi nous donne dans ces moments-là, de vraiment être capable de rester sous le fardeau, puis s'attendre complètement du Seigneur, puis le Seigneur va faire son travail en nous. Parce qu'il est en train de nous façonner, il fait de nous ce qu'on va être pour l'éternité. Mais il faut que le laisser travailler. Il faut attendre qu'il fasse son travail, puis il faut être patient envers lui. On a ce privilège merveilleux de pouvoir le prier, puis prions-le. Oui, prions-le, mais quand on décharge sur lui nos fardeaux, il ne faut pas repartir avec nos fardeaux. Il faut les laisser aux pieds du Seigneur Jésus, sachant qu'il va prendre soin de nous. Parce que, comme Pierre nous dit, de lui remettre nos soucis, puis parce que lui-même prend soin de nous. Puis c'est toute une relation. C'est quelque chose qu'on apprend pendant toute notre vie. On a des circonstances qui nous ont démontré sa fidélité. Puis on continue d'avancer, puis il nous donne des épreuves de plus en plus dures, mais à cause des épreuves passées, on peut savoir qui va prendre soin de nous. Donc dans ce psaume-là, c'est vraiment le témoignage, comme le titre dans ma Bible, c'est témoignage de l'exaucement de la prière. Ici, le psalmiste, il a crié à lui, il dit, t'es mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Donc, il voyait vraiment son besoin. S'il n'y avait pas la prière, s'il n'y avait pas la réponse du Seigneur, il aurait été bien vite comme les autres. Puis, il dit, écoute la voix de mes supplications. C'était un combat qu'il faisait dans la prière. Quand je crie à toi, il ne criait pas à d'autres, il criait à lui. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, et il dit que ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Le Seigneur ne va pas nous traiter comme les hommes méchants et les hommes iniques. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il dit, rends-leur leurs œuvres, les autres, ils vont avoir selon leur. Mais nous, là, Il dit, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel et à l'ouvrage de ses mains, qu'ils les renversent, ne sont pas attentifs à ce qu'il fait. Nous autres, on l'est. On doit être attentif à ce qu'il fait. Puis il dit, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Ça, c'est la parole de la foi. Puis ça fait quoi? Ben, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son loin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. C'est quelque chose de merveilleux, la prière. Puis c'est un exercice qu'on a avec le Seigneur. C'est une communication qu'on a avec lui. On doit grandir dans cette relation-là qu'on a avec lui. Puis plus on parle de des gens qui sont des gens de prière, des hommes, des femmes de prière, qui ont combattu dans la prière pendant des années, ont été patients, puis ils ont vu le résultat. Vous savez, il y a des gens qui ont prié pour des bien-aimés pendant des années, puis des années. Puis des fois, leur prière a été exaucée après qu'ils sont morts. Mais ils ont persévéré dans la prière. C'est sûr que c'est un privilège merveilleux, une relation merveilleuse. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné l'accès de pouvoir prier en son nom. Que je m'arrête là pour ce soir. Puis si on a des questions ou des commentaires, on peut les faire. Je vous donne l'opportunité de reprendre votre micro. Puis la semaine prochaine, Seigneur voulant, on finira avec le psaume 29 et le psaume 30. Attendez un petit peu. Ici, je vous donne. OK. C'est que vous devriez être capable de prendre votre micro. Si vous avez un problème, laissez-moi, faites-moi signe.
Est-ce que je peux prendre la parole, même si vous ne m'envoyez pas?
Oui, c'est un petit
Ben
sabot.
oui.
Oui.
OK. Deux versets. Tu avais terminé dans Éphésiens
Oui.
avec ce verset.
Oui.
Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.
Oui.
Et je lis un verset qui nous rappelle bien cela dans les psaumes.
Oui.
Ça dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
Oui.
Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est fameux quand même.
Oui, le psaume 133.
L'autre verset par rapport à la prière, je ne sais pas si je peux le lire, mais tu pourrais tourner peut-être aussi.
Oui.
C'est dans Jean chapitre 16.
OK.
Jésus parle de la prière. Il y a deux versets. Tu peux peut-être les lire puis le partager.
OK. C'est quel le verset?
26 et 27.
OK.
Parce que pour moi, des fois, c'est pas toujours clair le verset 26.
En ce jour,
Jean chapitre 16,
16,
au
verset
verset
26.
26 et 27.
Ouais. Il dit, en ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. Mais tu veux dire que qu'est-ce qu'il veut dire par en ce jour? Est-ce que c'est ça ta question, Lévi?
Bien, c'est comme si Jésus dirait, vous n'avez pas besoin de me prier, priez le Père. Je comprends mal, hein?
Oui, ouais, c'est ça, mais comme il nous a dit auparavant de prier en son nom, mais c'est comme une garantie qui dit, garde, le Père, il vous aime. Puis c'est sûr que le Père nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le Père, c'est lui qui a envoyé le Fils pour nous réconcilier avec lui. Mais c'est ça que le Seigneur Jésus veut dire. Oui, on demande en son nom, mais il dit, c'est pas comme si le Père serait quelqu'un qui serait dur là, à convaincre de nous bénir. Là. Il veut nous bénir. Et puis, c'est ça qu'il veut dire le Seigneur ici.
Merci encore une fois.
Moi, j'aimerais partager une expérience qui a été vécue dans la fin des années 79, le début des années 80.
Oui.
Dans ce temps-là, on était à l'Assemblée de Sainte-Foy avec M. Bernier,
OK.
et il nous racontait qu'une dame priait pour que le Seigneur envoie des bateaux pour évangéliser.
Ouais.
Il y a une dame qui a prié pendant 10 ans pour que le Seigneur envoie des bateaux pour évangéliser, mais ça a pris 10 ans avant que la dame soit exaucé. Mais le
Ouais.
Seigneur ne lui a pas envoyé un bateau, il en a envoyé deux.
Ah, OK.
Le bateau-là, c'est le Logos, je ne sais pas si vous vous rappelez, là,
Oui.
peut-être que tu te rappelles, Marie. Et, au début des années 80, donc la dame, elle a prié pendant 10 ans pour que le Seigneur envoie au moins un bateau,
Oui.
mais il en a envoyé deux. Et, oui, puis c'était vraiment, moi, je me rappellerai toujours de ça. Il y en a envoyé, il y avait le doulos et le logos. Et je pense que le doulos, à un moment donné, il a été détruit, je pense qu'il y a eu quelque chose. Mais le Seigneur, comme tu disais tantôt, Gérald, Dieu a répondu en son temps.
Ouais.
Et à un moment donné, elle a vu l'exaucement de sa prière. Et c'est une grande bénédiction. Puis ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça fait quand même, dans ce temps-là, je n'avais pas de cheveux blancs, là. Mais ça fait quand même plusieurs années. Mais je me rappelle encore aujourd'hui qu'à un moment donné, quand on prie, ben, comme tu disais tantôt, le Seigneur, il répondra peut-être pas nécessairement tout de suite, parce que c'est peut-être pas vraiment le temps de recevoir l'exaucement de cette prière-là à ce moment-là. Mais nous, des fois, on ne comprend pas. C'est un peu comme Job qui ne comprenait pas au début. Mais il a peut-être compris plus tard, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je voulais vous partager que le doulos et le logos, pour ceux qui sont un peu plus âgés, peut-être qu'ils vont se rappeler de ça au début des années 80. Il y a un bateau qui était venu même au port de Québec, qu'on avait visité, en fait.
C'est ça, disons, on voudrait ça tout de suite, là, mais le Seigneur, c'est sûr qu'il avait commencé à préparer la réponse à sa prière avant qu'elle prie. Mais des fois, c'est important. Des fois, des jeunes, ils veulent se marier, puis il faut qu'ils s'attendent au Seigneur. T'sais, quand ils prient, le Seigneur, il y a quelqu'un en vue, mais il s'agit de. Il y a un frère ici, à Dartmouth, lui, il était rendu dans la quarantaine. Il voulait se marier, mais il n'avait pas trouvé encore. Mais quand j'allais, je l'emmenais avec moi, des fois, on voyageait ensemble. Puis il me décrivait la femme qu'il voulait avoir. Puis moi, je me disais, oups, il est pas mal spécifique, là. J'ai dit, je ne sais pas si ça se peut qu'il reste tout seul, mais il a attendu. Mais quand il était dans la quarantaine, quand il l'a trouvé, puis est exactement qu'est-ce qu'il demandait, là. Puis après ça, après qu'il était marié, je lui disais, j'ai dit, Marcus, j'ai dit, quand je vois Christine, là, j'ai dit, c'est vraiment la femme que tu me décrivais quand on voyageait. Puis il me dit, n'est-ce pas qu'elle est merveilleuse? Il était content, le Seigneur a répondu à sa prière, mais dans son temps. Ça devient encore plus précieux dans ce temps-là.
Oui, mais il y a un autre exemple dans Luc 18, le verset 1 à 8, là. C'est un bel exemple, c'est la veuve qui demande d'être exaucée. Mais à un moment donné, elle a eu l'exaucement aussi de sa prière dans Luc 18, on voit ça aussi, un bel exemple.
Ben
Encore
oui.
la persévérance de la prière.
Persévérance dans la prière. Puis le
C'est un
Seigneur.
exemple pour nous. Pour
Mais
nous, des fois, ça peut être long.
plus on persévère dans la prière, plus ça devient défini, qu'est-ce qu'on veut, là, plus que ça devient précieux. Puis ce qui est triste des fois, c'est que le Seigneur répond à notre prière, puis on s'en rend même pas compte. Ça arrive, ça, le Seigneur peut répondre à notre prière, puis on s'en rend pas compte, puis on oublie de le remercier, comme les 9 lépreux qui avaient été guéris, il y en a juste un qui est revenu. Les autres, ils ont continué, puis ils n'ont pas revenu pour rendre grâce. Le Seigneur dit, les autres n'ont pas été guéris. Mais il dit, ben oui, mais ils n'ont pas revenu. Fait que, puis, des fois, on était avec une assemblée, puis l'assemblée était sur le bord de fermer. Là, mais on a commencé une réunion. Il n'y avait pas de réunion de prière. On a commencé une réunion de prière. Puis au bout d'un an, il y a un frère qui avait, il y avait la liste. Il dit, regardez, il y a 59 choses que le Seigneur a répondu cette année dans la prière. Puis le Seigneur a relevé l'assemblée. Mais si on ne prie pas.
On voit que aussi dans Éphésiens, les 3 derniers versets d'Éphésiens, on voit que Paul prie aussi, hein? Que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. On voit qu'il prie pour que une consolation, qu'on voit les versets 23 et 24, la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères. Et il dit, pour t'amener que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus, d'un amour inaltérable.
Oui.
L'or, c'est inaltérable.
Oui.
Ici, c'est la prière, c'est inaltérable
Oui.
aux yeux de Dieu.
Oui. Puis oui,
Merveilleux.
on voit que c'était quoi la prière de Paul? Ben, c'était l'avancement, l'édification, le bien-être de ces assemblées-là. Puis le Seigneur répondait à ça. Ils avaient vraiment établi, là. C'est ça que le Seigneur voulait aussi. Le temps est arrivé. On va peut-être terminer par un mot de prière. Ceux qui doivent partir pourront partir, mais ceux qui veulent continuer de jaser, on peut continuer après. Donc, Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ce temps dans ta parole. On te remercie pour la prière. Quel merveilleux privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à toi, Seigneur, puis qu'on puisse être avec toi dans une intimité telle que nos désirs sont les tiens, Seigneur. C'est de que tu vraiment ta gloire puisse être manifestée à travers nous, à travers nos vies, que ton œuvre puisse se faire ici sur la terre, Seigneur, pour glorifier ton nom, puis aussi qu'on puisse être changé. On a besoin de cette sanctification-là pour nous approcher de toi, Seigneur, puis de te connaître dans l'intimité. Merci encore une fois, puis on te demande de nous bénir, protéger chacun. Merci pour tous ceux qui sont joints cette semaine. Bénis ceux qui n'ont pas pu aussi, Seigneur, on te remercie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.